Deuxième partie de la boîte à thé numéro 2 sur le Space Opera avec Narcy, John, Carole et Virgile. Après la présentation du genre et l'étude des vaisseaux, voici les planètes, les aliens et nos coups de cœur.
Bon, ben voilà, on va passer sur la partie 2. Donc cette fois, on va parler des planètes. Voilà, on va commencer par dire, par poser la question de comment on crée une planète. Les planètes, un peu comme les vaisseaux, c'est un peu des cœurs du space opéra, hein, c'est-à-dire que la plupart du temps, bon, bah, on va voyager, comme on disait, de planète en planète. Et donc, c'est comment on définit ces planètes, comment on les crée, comment éviter le trope en mode Star Wars de la planète paysage. Oh, bah tiens, une planète océan, oh, bah tiens, une planète glaciaire, oh, bah tiens, une planète désert. Comment éviter ce truc-là, comment les jeux abordent la manière de présenter les planètes aussi. Voilà. Bon, moi, je commence un peu avec effectivement le truc de Star Wars, c'est-à-dire que c'est le type de planète. Il y a ça beaucoup dans 40K, dans 40 000, pardon, dans les jeux 40 000. En fait, en général, il va y avoir une liste de types de planètes. Là, il va y avoir les mondes morts, les mondes pénaux, les mondes paradis, les mondes ruches, beaucoup, beaucoup de mondes ruches d'ailleurs. Et donc, c'est une classification. En général, dans 40K, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont vraiment, ils vont donner la liste des mondes possibles, des classifications de mondes. C'est les classifications impériales. Hein. Mais ils vont aussi donner vraiment, en général, dans les jeux, ils vont donner une liste de planètes. Ils vont dire, bah, sur telle planète, il se passe ça, sur telle planète, il se passe ça. Et après, bon, vous avez une licence créative pour créer d'autres planètes, mais ils donnent quand même des planètes de base, avec beaucoup d'éléments en général. Hein. En général, ça va prendre à peu près 50-60 pages dans chaque supplément. Et ils vont rajouter des suppléments pour ajouter des planètes. Dark Heresy, par exemple, choisit de placer toute son intrigue dans un secteur. Il y a un secteur de la galaxie, et tout le jeu de rôle se passe là. Donc le secteur est décrit avec ses enjeux narratifs, voilà. Donc là, il n'y a pas de table aléatoire, je crois. Hein. C'est juste vraiment une espèce d'encyclopédie en mode telle planète c'est ça, et bah, vous pouvez en créer d'autres à votre libre choix.
Je peux commencer. Effectivement, il y a un certain nombre de jeux qui proposent directement un univers développé avec. Dans le bouquin de base, au moins un secteur développé et souvent des suppléments. Et pour ça, on a l'exemple de Coriolis, où il développe beaucoup le secteur autour de la station. Et il y a un atlas voilà, qui développe d'autres endroits avec différentes planètes, astéroïdes et autres, où sur chaque planète et astéroïde, il y a des amorces, des accroches pour créer des scénarios, pour faire un truc un peu en mode semi-bac à sable. Fade Innocent, c'est un petit peu sur ce modèle-là aussi, avec pas mal de suppléments et autres. Ah, ça permet d'avoir des choses toutes faites, d'avoir des idées, etc. Mais par contre, l'inconvénient de ce genre de jeu, c'est que ça demande pas mal de lecture et de préparation, évidemment. Hein. Après, il y a parfois, si par exemple, on pense à Firefly ou à Babylon 5, il y a aussi des planètes décrites, des secteurs, etc. Mais si on a vu les séries, en un sens, bah ça allège le temps de lecture, quoi. Parce que souvent, si on masterise ces jeux, c'est qu'on est fan de l'univers. Donc, il y a cet avantage-là pour les univers à licence connus. Ça permet de. Il y a après des jeux qui peuvent être un petit peu plus faciles, enfin plus rapides, en tout cas à prendre en main. Je pense à Final Frontier. Parce que vu que ça décrit quelques planètes et il y a une campagne qui est semi qui est pas toute prête mais qui propose quand même pas mal de choses mais l'univers en lui-même est brossé quand même assez à grands traits mais vu que c'est basé sur du Star Trek qu'on peut s'inspirer de pas mal de films je pense évidemment à Galaxy Quest qui est sans doute une des inspirations du jeu ou ce genre de choses, bah ça permet assez facilement de récupérer des planètes sans forcément avoir besoin de chercher dans des encyclopédies ou des livres directement. Et puis il y a aussi les jeux. Alors c'est pas exactement une planète, mais pour moi c'est un peu l'équivalent. Je pense aux jeux des types station spatiale comme Flotsam ou le Métal froid des anneaux de Cerbère qu'on a sur le board d'ailleurs, qui permet en fait d'alléger un peu la charge du MJ parce que Il y a, c'est construit, il y a quelques tables aléatoires et c'est construit en narration partagée avec les joueurs au début. Donc ça permet comme ça de pas avoir à créer de A à Z toute la planète ou la station avec un seul cerveau, mais de s'y mettre à plusieurs, ce qui permet d'enrichir pas mal les choses. Voilà, c'est ce à quoi je pense comme ça sur le sujet. Je laisse la parole à Nancy, je crois.
Ouais, alors moi honnêtement, si on parle de création de planètes en termes de game design, moi je suis quand même assez favorable au faire des tables aléatoires. C'est-à-dire que je trouve que ça permet quand même une certaine versatilité. Je vois par exemple que dans Mega 5, en fait, ils font des tables. Alors c'est pas des tables, mais ça ressemble au coin de table. Ils font des tables avec l'organisation sociale et le niveau technologique, par exemple. Ça, c'est super intéressant, je trouve. De dire, bah, on va définir, par exemple, là on est sur une planète avec un village fixé type âge de fer ou renaissance. Dans Dominion, ça va être la forme de la planète. Donc, par exemple, anneau artificiel, planète tellurique, planète errante, satellite de géante gazeuse. Moi, je suis assez fan de cette méthode-là. Je crois que ça c'est GURPS, je crois, sur le Miro. GURPS a l'air d'avoir créé un truc impossible avec les minéraux rares, le niveau de la tech, si c'est radioactif, organique, la composition, la densité, la durée du jour, la durée de l'année. Moi, je pense qu'ils ont poussé la fiche de planète très très loin, GURPS, pour le coup. C'est GURPS, hein, on est d'accord, hein, je crois que c'est GURPS, mais excusez-moi, pardon. Mais voilà, donc en fait, ça rejoint un peu ce que je disais sur les vaisseaux, c'est-à-dire qu'on peut aussi faire littéralement une fiche de planète, quoi. On peut faire une fiche de perso pour la planète, quoi. On dit, bah voilà, moi je trouve que c'est un peu fastidieux quand même, hein, parce que si on veut faire un système large, comme c'est beaucoup le cas dans le Space Opera, ça veut dire qu'il peut y avoir facilement 1000 planètes, même si, attention, hein, le Space Opera, c'est pas non plus, il faut pas forcément qu'il y ait 10 000 planètes, hein, c'est-à-dire que The Expanse et le Space Opera, c'est le système solaire, quoi. Voilà. Mais il se passe quand même des choses, c'est-à-dire qu'il y a quand même des stations spatiales, il y a quand même des. C'est surtout là-dessus que c'est basé avec The Expanse. D'ailleurs, c'est The Expanse. Bon, la plupart des planètes ne sont pas habitables ou visitables, il me semble, à part Mars, qui a été terraformé. Mais il y a des stations spatiales partout, en fait. Voilà. Sur les astéroïdes, voilà. Donc, en fait, voilà, il y a aussi cette notion-là de dire qu'on peut parfaitement, dans le Space Opera, faire un système resserré où il n'y a que 3-4 planètes. Et ça reste du Space Opera, hein, je vois, attention. Mais rajouter des stations spatiales partout, et se dire, c'est. Bon, il faut quand même qu'il y ait une certaine ampleur. Mais en même temps, le Planète Opéra est une forme, on bouclera là-dessus sur la partie 2, mais le Planète Opéra est aussi une forme de Space Opéra. Alors bon, c'est pas non plus... c'est pas limitant, quoi. Ouais, moi je pense qu'en vrai, faire des tables aléatoires de planètes, ça reste une bonne idée, même si je remarque, par exemple, que dans Savage Worlds, ils ne font pas... Ils font un peu la même erreur, parce qu'en fait, ils vont dire vraiment terrain dominant, par exemple. Donc, terrain dominant, ça va être forêt tempérée, jungle, marécage, désert. Donc on reste un peu sur cette espèce de truc qui pour moi est assez complètement irréaliste, c'est-à-dire que dire qu'il y a une planète qui est uniquement composée d'un seul et même terrain, quoi. On voit bien qu'avec la planète Terre, qui est une planète tellurique, c'est pas le cas du tout, quoi. Je comprends pourquoi on fait ça, c'est sans doute pour simplifier, hein, parce que bon, voilà, mais je trouve ça un peu dommage de faire des planètes paysages, moi personnellement. Mais bon, ça reste mon opinion, hein, voilà. Mais on peut en mettre quelques-unes, mais bon, ne faire que ça, c'est un peu dommage, je trouve.
Au niveau des planètes, ça dépend aussi beaucoup de qu'est-ce qu'on va en faire en jeu, finalement. Donc, c'est vrai que tous les jeux à licence, ils vont souvent nous parler des planètes qui sont vues dans la licence, qui sont vues dans les épisodes, qui sont vues dans les films. Alors, parfois, c'est simplement un entrefilé. On nous donne quelques éléments, on rappelle un petit peu la planète, puis on renvoie finalement au film ou à la bande dessinée ou au livre pour avoir plus d'informations. Ou alors, il y a aussi des jeux où on va décrire donc très très en détail la planète. On peut donner par exemple des éléments sur son niveau technologique, comme on a dit, hein. Donc là il y a des outils, hein. Souvent, on parlait tout à l'heure de Mega, mais il y avait Empire Galactique, j'utilisais aussi cet outil-là, et je vois qu'il y a également Cobra qui utilise ça, donc niveau technologique, qui permet de définir à quelle technologie se trouve une planète. Mégal étant au niveau de l'organisation sociale, hein, pareil, ça permet de définir quelle est l'organisation sociale de la société. Mais on a aussi tout ce qui est décrire le climat, la géologie de la planète, la flore, la faune, les dangers, qui habite sur cette planète. Et après, c'est ça, on arrive sur les jeux où on a des paramètres très particuliers qui sont abordés, par exemple la gravité de la planète, hein, dans GURPS Espace ou dans Savage World, on va avoir aussi voilà, l'atmosphère qui est utilisée, quels sont les gaz qui sont dans l'atmosphère, quels sont, donc là on peut avoir des choses très, très précises et qui vont amener à peut-être aussi penser autrement, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'aventurer de la même façon sur une planète si on a besoin d'une combinaison spatiale pour l'explorer, que si on peut y aller simplement comme ça, simplement atterrir dessus et interagir avec les gens qui sont sur place, quoi. Donc voilà, il y a vraiment aussi cette dimension de est-ce que c'est un décor où finalement où l'intrigue va avoir lieu, est-ce que ça va être quelque chose à explorer. Je ne sais pas si on va y revenir après. Je pense que la description de la planète, elle vient de là. Alors l'intérêt aussi des tables aléatoires qu'on a évoquées, c'est que c'est pas forcément des tables où on peut jeter des dés dedans pour faire des choix. Tout simplement, dans une table aléatoire, ça donne plein de possibilités pour construire sa planète en faisant simplement des choix sans forcément jeter le dé.
Je voulais effectivement compléter un petit peu sur les planètes monopaysages en déplaçant un tout petit peu le trait. J'y ai pensé à partir de Eclipse Phase, par exemple, où pour moi, assez surpris de me dire effectivement, Vénus, ça va être une planète où il y a un type de population qui va habiter et vraiment un mode de pensée et puis un fonctionnement très différent de les gens qui vont vivre sur la Lune, des gens qui vont vivre sur Mars et des gens qui vont vivre sur Jupiter. Et j'ai fait filer ma pensée et derrière, très souvent, on va aussi avoir un gouvernement planétaire avec une personne qui va être le représentant de la planète pour parler de tout ça. Et ça me paraît aussi terriblement surprenant. Alors bon, c'est peut-être ce qu'on espérait à une époque aussi pour notre bonne Terre, qu'on arrive à un gouvernement planétaire juste et démocratique, comme pour moi, je disais plutôt le juste et le démocratique. Mais on a l'impression que ouais, ça va être compliqué d'arriver à un consensus international et à faire quelque chose de complexe et de complet. Alors c'est peut-être lié aux enjeux et puis aux tropes du space up, hein, mais c'est rare que même on ait plusieurs espèces intelligentes qui peuplent cette planète. Je décalais un petit peu le prisme pour réfléchir aussi à qu'est-ce que ça peut représenter du point de vue structure politique, économique, sociale, comme tu l'as aussi un petit peu dit, Virgile. Et en sachant que derrière, ça va apporter aussi des choses, mais on déborde sur les questions suivantes où on parlait un peu d'enjeux narratifs.
C'est vrai qu'effectivement, parler du gouvernement et puis de l'évolution technologique, c'est pour ça que j'avais noté, parce que je trouve ça assez intéressant. Dans le jeu de rôle Alien, ils font les deux, hein, c'est-à-dire qu'ils vont décrire sur une cinquantaine de pages à peu près, une série de planètes, voilà, avec des avec pas des stats, hein, ça va vraiment être des trucs en mode affiliation, température moyenne, colonie, et à la fin du bouquin, il y a un générateur de système. Enfin, à la fin, il y a un générateur de système, donc ils font les deux, hein, carrément, voilà, ce qui est très bien aussi, d'ailleurs, de donner un setting et l'un n'exclut pas l'autre, hein, où là, il va y avoir le type d'étoile, le nom de la planète, la taille de la planète, l'atmosphère, avec des détails toxiques, denses, respirables, et voilà, la température, la géosphère, et une table des terrains planétaires. Voilà. Qui là, justement, sortent un peu des. Parce que c'est Alien, sortent un peu de la planète gaz, ça peut être immense lac salé, jungle impénétrable, super orage. Voilà. Bon, voilà, par exemple, voilà, je prenais cet exemple-là. Parce que je l'ai à côté de moi, je l'ai chez moi ce jeu, donc je suis allé regarder vite fait à quoi ça ressemblait dans Alien. Ouais, bon, moi j'estime que le mieux c'est vraiment de faire les deux, hein. C'est un créateur de jeu, c'est-à-dire de créer un système, un secteur avec ça peut être une dizaine de planètes à peu près, hein, si vous n'avez pas trop envie de vous prendre la tête. Et puis, en même temps, de faire quand même des tables pour les gens qui veulent en créer d'autres, quoi. Pour moi, c'est la meilleure option. C'est de... Après, ça reste mon avis, hein, mais... Bon, on va passer sur la partie 2. Quelle spécificité dans le cadre du Planet Opéra? Bon, déjà, pour moi, la principale spécificité dans le Planet Opéra, c'est qu'on va décrire une planète et que donc, ça va, même si c'est une planète paysage comme Dune, parce que Dune, c'est juste un immense désert, on va plus rentrer dans des conceptions plus élaborées. C'est-à-dire qu'on va plus décrire, en fait, les structures sociales, les clans. On va plus décrire aussi les spécificités de la planète, parce qu'en général, si c'est un planète opéra, c'est que la planète a un côté particulier et a un intérêt particulier. Ouais, dans Dune, voilà, c'est les pistes, mais pas que. Hein, les Dunes, il y a aussi le désert, il y a aussi les Fremen, il y a aussi les vers des sables. Donc il y a beaucoup beaucoup de petites particularités comme ça. Donc la spécificité du planète opéra, pour moi, c'est ça. Hein. Ça va être d'avoir une planète très spécifique, très particulière, qui se différencie des autres, et sur laquelle il est suffisamment intéressant de rester pendant toute une campagne, quoi. Donc avec, ça exige beaucoup de développement pour en faire quelque chose d'intéressant. Je pense aussi, bon, moi, c'est pas du Planet Opéra, mais je mettrais aussi ça dans le Planet Opéra. Je pense aussi, par exemple, au jeu de rôle Station Spatiale, où tout se passe à bord d'une immense station spatiale. Babylon 5 l'avait fait dans la série, mais il y a aussi Orest, une station spatiale, hein, qui ressemble d'ailleurs beaucoup à la citadelle de Mass Effect, Coriolis aussi. Bon, là, je laisserai Carole en parler, parce que c'est plus celle qui s'y connaît, mais où en fait, on est dans une forme de planète opéra, parce que même si ce n'est pas une planète, c'est ce qu'on appelle des big dumb objects, des gros objets ridicules. Parce que pourquoi ridicule? Parce que bon, ils sont pas très réalistes dans l'état actuel des choses, des connaissances scientifiques en tout cas. Voilà.
Oui, pour les stations comme pour les planètes, c'est effectivement l'occasion de mettre en scène plusieurs cultures, factions. Généralement, du coup, ça, c'est de facto, ces planètes ou ces endroits-là sont des endroits pour de l'intrigue, du jeu, du drama. Etc. Il y a Virgile qui cite dans le chat plusieurs autres jeux sur le même thème qui est assez populaire, la station spatiale ou le très grand vaisseau Flotsam, Battlestar Galactica ou le métal froid des anneaux de Cerbère. Ça permet effectivement de regrouper les avantages d'une planète avec pas mal de monde sur un espace quand même relativement réduit par rapport à une planète et d'avoir des problématiques parfois un peu liées au côté vaisseau spatial. C'est un peu le meilleur des deux mondes entre guillemets en jeu de rôle, et en plus il y a pas mal de passages, donc on peut amener des choses assez facilement. Mais pour en revenir sur les planètes plus naturelles, on va dire, pour le Planète Opéra, je trouve qu'il y a un autre intérêt qui est pas forcément explorable en jeu de rôle, on va dire classique, mais que ça serait peut-être à creuser, c'est que souvent dans le Planète Opéra, quand c'est des séries un petit peu, ou des grands romans en tout cas, il y a une échelle de temps aussi, on voit la planète évoluer, je pense, Dune, pour le coup, ça commence en désert, mais au cours de la série, il va y avoir des évolutions, ou je pense dans la Toile du Temps, où on va suivre une planète qui ressemble un petit peu à la Terre, mais on suit également une espèce qui, suite à un virus, un nanovirus, va se développer, une espèce d'araignée qui va se développer de manière intelligente, et on les suit sur vraiment des générations, des millénaires. Et cet aspect-là, cet aspect grande échelle de temps du space opéra, ça pourrait être aussi quelque chose d'intéressant à explorer, peut-être en jouant les descendants des personnages, avec la cryogénisation, etc.
C'est le Planète Opéra, c'est... Alors pour moi, si ça se trouve, on va hurler dessus parce que ce n'est pas du tout ça. C'est... il faut un endroit qui soit hyper cool, voilà, donc réfléchi. En tout cas, ça plaît à l'auteur du scénario du jeu, du roman, du film, dans lequel il va se passer plein de choses, et puis un cadre précis. Et en fait, j'ai l'impression que c'est... ouais, moi j'ai écrit Dune parce que je voulais que mon cadre ce soit un cadre de désert, parce que ce serait quand même trop cool d'avoir des noms arabisants, et puis d'avoir ajouté une ambiance chaude et sèche, et puis ça c'est quand même trop classe, Et puis l'eau, pour moi, c'est super important parce que j'ai des valeurs écologiques derrière. Mais on aurait très bien pu être ailleurs. Ça aurait été pareil, quoi. Ça aurait été dans la jungle. Ça aurait été le même monde. Mais il fallait un cadre particulier parce que je veux toutes mes aventures et ce style-là, ce genre-là, et puis qu'il y ait cette saveur derrière tous les paysages et tous les personnages que je vais présenter. Effectivement, ça nécessite, tous les cas, bah, que ce soit d'une façon ou d'une autre, le cœur au moins des personnages, si ce n'est du monde connu, quoi. Il y a une importance gigantesque de cet endroit parce que il y a une ressource particulière, parce que c'est la capitale, parce que c'est ceci ou cela. Et que c'est là que tout va jouer. Il y aura le grand conflit de la génération qui va se faire également.
Alors, en général, dans Planète Opéra, le rôle du vaisseau va être beaucoup moins important parce qu'il sert juste à ramener des gens sur cette planète ou à les faire partir. On pourra avoir des vaisseaux interplanètes, hein, mais c'est plus vraiment des vaisseaux spatiaux. Donc, ouais, je pense qu'en termes de spécificité, ça va vraiment être bah, ce que tout le monde a dit, c'est-à-dire que vraiment, c'est un endroit très particulier sur lequel il va y avoir de l'intrigue, ce qui n'empêche pas qu'on peut bouger autour. Hein. Il me semble que même dans Dune, en tout cas, dans le jeu de rôle qui est sorti récemment, il y a quand même des intrigues sur d'autres planètes. Hein, il y a quand même des voilà, mais le gros de ce qui se passe sur Dune, quoi. Bon, c'est le meilleur exemple que j'ai en jeu de rôle, mais je pense qu'il y en a d'autres. On a cité d'autres avec les gros objets là. Ouais, voilà. Bon, je pense que voilà, c'est on va pas trop parler de ça parce que c'était pas oui, Magipour aussi, Magipour, ouais. Intéressant aussi. C'était pas vraiment c'est un espèce de sous-genre du space opéra, mais c'est pas le cœur de notre discussion aujourd'hui. Je vais finir par terminer sur la partie 3, qui va aussi d'ailleurs un peu faire boucle avec qui va un peu boucler avec la planète opéra, justement. C'est quoi les enjeux narratifs d'une planète, en fait? À quoi ça sert de mettre les planètes? Est-ce qu'on fait un catalogue juste parce que bah il en faut? Ou est-ce qu'il faut vraiment que chaque planète ait un impact narratif? On en revient un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a les planètes un peu personnages et les planètes un peu décors ou ressources, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a des planètes qui vont être là juste pour récupérer des trucs dessus, voilà, où il n'y a même pas de civilisation, d'ailleurs. Bon, moi, je pense à ça, par exemple. Bon, là, je parle du jeu vidéo, mais dans le premier jeu Mass Effect, c'est ça. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des planètes où on y va juste pour récupérer du minerai, quoi. Il n'y a personne dessus et bon, il va rien se passer à part récupérer des trucs. On va avoir des environnements à explorer. Donc là, par exemple, on va être sur des planètes un peu plus élaborées où il y a plus de choses, où il peut y avoir des secrets, où il peut y avoir des aliens hostiles, des extraterrestres hostiles. Le cas typique, c'est une planète sur laquelle on se pose pour réparer son vaisseau, et puis en fait, on se rend compte que bah, il y a des trucs dangereux sur la planète et on peut pas partir. C'est le cas dans le film Pitch Black, par exemple. Voilà. Et puis il y a l'idée aussi de est-ce que c'est un décor d'action ou est-ce que c'est un décor d'intrigue? C'est-à-dire que est-ce que c'est une planète où juste on va arriver, bah, comme là je viens de le citer, pour se battre et faire de la castagne, ou est-ce qu'on va rester sur cette planète et vise justement glisser un peu dans le planète Opéra? Parce que la planète est blindée d'intrigues. Bon, moi, je vais reciter ce jeu de rôle-là, mais dans Dark Heresy, par exemple, il y a même des campagnes entières qui se passent sur la planète capitale, qui s'appelle Scintilla, qui est une espèce d'immense monde ruche qui est très développé dans les suppléments. Et on peut faire des campagnes entières en restant sur Scintilla, quoi. Juste à naviguer entre les intrigues de cour et les intrigues de gang qu'il y a sur la planète, quoi. Donc oui, en fait, c'est pourquoi on fait des planètes, en fait. Pourquoi on fait des planètes? Et il faut penser à l'intérêt qu'elles vont avoir. C'est-à-dire que, voilà, est-ce qu'il faut mettre des planètes pour mettre des planètes, quoi? Ou est-ce qu'il faut pas que chaque planète ait au moins un intérêt narratif, fictionnellement, quoi? Ou est-ce que c'est juste un décor, quoi?
J'ai un pote qui nous avait fait jouer. C'est une création perso, donc voilà, un peu d'intérêt. Même si j'espère qu'un jour il verra le jour, ça s'appelait EOS. L'objectif des persos, on était tous dans une espèce de grand vaisseau bûche, parce que la Terre étaient dans un conflit gigantesque, et puis donc, on partait en exploration spatiale pour essayer de trouver un endroit où vivre. Et je trouvais que c'était vraiment chouette qu'on était dans une espèce de bac à sable dans lequel on proposait différents endroits, différentes planètes, ce qu'il avait créé, avec un certain nombre de caractéristiques, qui avaient toutes des points forts, des points faibles. Et au fur et à mesure, on devait faire des choix sur est-ce qu'on essaye de s'installer quelque part, est-ce qu'on essaye d'aller encore plus loin, en sachant que les ressources du vaisseau étaient limitées et ne permettaient pas, une fois qu'on s'installait quelque part, en gros, on devait démonter le vaisseau pour construire les premières bases terrestres, voilà, sur le sol de cette planète. Je trouvais ça vraiment sympa aussi comme idée de les planètes sont des décors, on pouvait y aller avec des petits vaisseaux, mais pas poser le gros et les millions de personnes qui étaient à bord. On pouvait explorer un petit peu, voir quels étaient les risques quelque part. Donc on était vraiment sur de l'exploration, et en même temps, on pouvait tomber sur des espèces pas d'extraterrestres, vraiment, mais on avait des plantes, on avait des animaux, enfin une faune, une flore, des micro-organismes qui pouvaient être dangereux. Il y avait des caractéristiques en termes de ressources, en termes de durée du jour, de la nuit, de difficultés par rapport au rythme des humains. C'était assez sympa de ce point de vue-là. Et puis, il y avait quand même aussi plein d'intrigues qui allaient autour, au sein de l'équipage, au sein de décisions entre joueurs aussi. Voilà, c'est un moyen d'amener des planètes qui vont avoir une variété aussi, et qui vont pouvoir être peut-être un peu plus intéressantes de ce point de vue-là. Une petite ouverture.
Merci, John. Virgile ?
Oui, je voulais dire aussi, et ça fera une transition aussi peut-être pour la partie suivante, il y a aussi les jeux qui proposent de structurer les ensembles de planètes en force politique, en alliance, et qui jouent sur les interactions de ces forces politiques. Par exemple, là, j'ai sous les yeux le secteur galactique de l'amas de Gion pour Empire Galactique, où on a les différentes planètes qu'il compose, qui sont regroupées. Donc il y a l'amas de Gion, il y a l'Alliance des Douze Soleils, il y a l'Empire, les Agrippines, qui sont des planètes minières. Donc tout ça, ça donne une dynamique de jeu qui est intéressante aussi à exploiter, hein, sur quelles sont les interactions. Donc c'est pas seulement la description d'une planète, mais aussi quelles sont les interactions entre les différents ensembles de planètes. Voilà, il y a Dominion aussi, hein, qui explore cette partie-là un peu plus politique. Voilà.
Oui, merci Virgile. Clairement, on peut faire des ensembles de planètes et partir sur de la géopolitique un peu par rapport à ça. Moi, je voulais juste terminer sur un truc en disant que, pour moi, en tout cas, effectivement, les planètes doivent avoir des enjeux narratifs, quand même, plutôt. Et que si on arrive sur une planète, il faut qu'il s'y passe quelque chose, quoi. Ouais, il faut qu'il s'y passe quelque chose. Et donc, juste le fait d'aller récupérer des ressources sur une planète en mode arrêt, pour moi, est assez peu intéressant. Je conclurai juste en disant qu'effectivement, moi, pour mon point de vue, c'est intéressant de faire des planètes si jamais elles doivent servir à quelque chose, quoi. Et pas juste d'en faire un décor en mode il y a plein de planètes et voilà, elles sont là parce que c'est cool, quoi. Voilà. On va partir sur la notion. Ah, tu veux parler vas-y, termine.
Je vais dire le contraire de toi.
Ah oui, évidemment.
En fait, c'est aussi sympa de. Si déjà on voyage et qu'on a un vaisseau et qu'on peut bouger partout, qu'on se retrouve pas toujours dans le même cadre, c'est ce qui est cool dans des tas de séries qui se passent dans l'espace, c'est que dans chaque épisode on va être dans un nouveau cadre, dans un nouvel environnement, il y a d'autres habitants, une autre culture, d'autres dangers qui vont être présents. Et oui, ça a un petit côté carte postale peut-être, mais en même temps, ça a un côté aussi, on est dans un truc qui nous dépasse, quoi. Stargate, la série, est assez sympa, mais quand ils se retrouvent toujours dans la même forêt avec les mêmes arbres, quelle que soit la planète sur laquelle ils vont, on se dit que les scénaristes les producteurs avaient les moyens de déplacer les équipes de tournage que sur 30 km autour de Los Angeles, quoi. C'est un peu tristoun de ce point de vue-là. Et c'est quand même cool que on passe d'un monde à un autre et qu'on voit qu'on est changé d'environnement de ce point de vue-là.
C'est Vancouver. C'est Vancouver, nous dit Carole.
C'est Vancouver. Bon, voilà. Bon, oui, c'est pour ça que...
Ils sont sur la planète de Vancouver dans tous les épisodes, en fait.
Ouais.
Non, moi je pensais à un truc, c'était là-dessus que je voulais terminer, en fait c'était ce que je voulais dire tout à l'heure, en fait concrètement c'est qu'il va y avoir un peu pour moi deux espèces de
deux espèces de grandes écoles. Bon, il y en a bien plus que ça, évidemment, hein. Il va y avoir effectivement ce que je vais appeler une espèce de campagne ou de jeu à mission, comme dans Star Trek ou dans Stargate, c'est qu'on arrive sur une planète, on fait un truc sur la planète, et après on va sur une autre. Et puis il peut y avoir, un peu comme on disait tout à l'heure, des optiques un peu plus géopolitiques, ou en fait, ou une quête d'exploration, où en fait il va y avoir sur chacune des planètes quelque chose qu'on doit récupérer pour former un tout, voilà, c'est-à-dire qu'on peut partir sur ces deux formats-là, et dans un format type jeu à mission, c'est pas grave si chaque planète n'a pas un enjeu narratif, il suffit juste que la planète, il y ait quelque chose dessus qui soit intéressant pour la mission du moment, quoi. L'autre intérêt aussi des planètes, l'autre enjeu narratif, l'autre intérêt, c'est de faire ressentir l'altérité, l'inquiétante étrangeté, c'est-à-dire des planètes qui sont très très différentes de notre monde, et ce qui me permet justement de faire une transition parfaite vers la partie 3, les autres. Dans le space opéra, il y a quand même très souvent au cœur du genre la notion d'interaction avec d'autres entités, d'autres personnes, d'autres d'autres humains, en fait. C'est un genre qui se concentre vraiment sur les rapports entre personnages, en tout cas, entre personnages différents, de manière générale. C'est un truc qui a été beaucoup exploité, par exemple, dans le livre de Cyril Michel Calégeon, qui parle du space opéra à la télévision, et il dédie des chapitres entiers à l'alien. Parce que dans beaucoup de séries de space opéra, dans l'équipage, il y a un alien. Voilà. Il n'y en a qu'un, d'ailleurs. Où il y a un robot. Où il y a un alien et un robot. Ouais. Et donc, le space opéra a aussi vocation d'explorer un peu cette altérité radicale, c'est-à-dire avec, comme on le disait, bon, il y a, alors là, on va parler de beaucoup de choses, mais donc il y a les extraterrestres, donc les aliens, il y a les robots, il y a la transhumanité, il y a les humains avec des pouvoirs, je pense aux Jedi par exemple dans Star Wars, et donc en fait, bon, là, je fais un peu de réponse à la question une, mais quel type d'alien on aborde? Et est-ce qu'il est nécessaire aussi d'en aborder, hein? Est-ce qu'on peut parfaitement faire un space opéra sans alien, même si c'est un peu moins intéressant, je trouve. Mais voilà, quel type d'alien on aborde et comment on les aborde, quoi.
Ouais, je vais faire mon biologiste. Si les humains sont allés sur certaines planètes, c'est parce que les conditions leur permettent d'y accéder et puis d'y vivre d'une manière relativement raisonnable. Le résultat, c'est que il y a de l'humanité l'équivalent en fonction de la galaxie très lointaine dans laquelle vous vous trouvez, sur des planètes qui ont les bonnes températures, la bonne une atmosphère qui leur convient, sur laquelle on trouve les bons gaz, une gravité qui est supportable, des conditions de vie qui leur permettent de supporter. Le résultat, c'est que les endroits où on trouve des humains, c'est aussi les endroits où on trouve des trucs qui fonctionnent un peu comme des humains, parce qu'ils ont les mêmes besoins et les mêmes contraintes du point de vue physiologique, on va dire. Et du coup, ça va faire que, au final, ils peuvent cohabiter les uns avec les autres. Est-ce qu'ils arriveront à se comprendre, à bien échanger? Est-ce qu'ils ont vraiment le même look ou pas? Non, pas forcément, parce qu'on cohabite bien avec des chats, des limaces, des pigeons, et puis, je ne sais pas moi, des libellules, et parce qu'on a des contraintes qui sont suffisamment proches les unes des autres. Par contre, on croise un petit peu moins de poulpes, et puis autres. Ce qui fait que l'alien, l'autre, va être... L'extraterrestre biologique, on va dire, il va souvent quand même avoir un certain nombre de critères qui vont faire que ça nous ressemble un petit peu. On peut aussi avoir des échanges qu'avec des gens qui ont un fonctionnement qui est à peu près proche du nôtre. C'est très compliqué de faire des aliens avec lesquels on ne pourrait jamais communiquer, échanger, avec lesquels on n'aurait aussi aucun intérêt à faire des échanges parce qu'ils ne pourraient rien nous apporter, nous on ne pourrait rien leur apporter non plus. On est trop différents du point de vue de nos attentes. Voilà, c'est pour ça qu'on ne fait pas de commerce avec des libellules, parce qu'elles ne peuvent rien nous donner, et puis nous, tout ce qu'on produit n'est pas très intéressant pour elles, par exemple.
Moi, je trouve qu'on peut réutiliser un peu la même grille de lecture tout à l'heure que pour les vaisseaux, c'est-à-dire que les aliens, au sens large, on peut les trouver en tant que décor. Hein. Typiquement, c'est la cantina dans Star Wars où on a toute une ribambelle de peuples extraterrestres avec toute une tête plus étrange les uns que les autres. Donc, ils sont là pour donner une petite touche d'exotisme et montrer qu'on est dans un univers spatial avec plein d'êtres complètement différents, un univers très vaste. Donc, ils sont là juste finalement pour l'ambiance et le décor. Après, il peut y avoir aussi des élèves qui vont être une ressource scénaristique. C'est-à-dire que là, ils vont leur particularité, leur altérité va être au cœur des intrigues que vont vivre les personnages. Hein, donc là, en point de référence, on peut avoir, par exemple, The Expanse, hein, et où là, une grande partie de l'intrigue va tourner autour de la découverte aussi de l'autre, de qui il est, de quel rapport on peut tisser avec lui. Et voilà, donc là, c'est aussi des histoires qui sont intéressantes à développer autour de ça. Le troisième angle, c'est d'envisager les aliens ou les robots ou les psys, etc., comme personnages jouables. Qu'est-ce que c'est que jouer donc un être qui est complètement différent? Comment le jeu aide à faire ça? Voilà, donc là, il y a vraiment trois aspects qui sont proposés pour ça, quoi.
Carole? Merci, Virgile.
Je trouve, pour ma part, qu'en jeu de rôle... En tout cas, si on joue un petit peu sur la durée, les aliens simplement comme décor, bon, c'est pas forcément le plus intéressant. Alors que voilà, les aliens comme enjeu scénaristique ou comme personnage jouable, c'est déjà plus entre guillemets exploitable pour nous sur la durée, en tout cas. Je trouve que quand les aliens sont un enjeu scénaristique, c'est plus facile entre guillemets, c'est-à-dire que même s'ils sont incompréhensibles, même s'ils sont c'est pas grave parce que c'est pas des personnages jouables, quoi. On n'a pas besoin forcément on n'a pas les difficultés qui viennent de comment penser comme un extraterrestre, etc. Ailleurs, le meneur de jeu peut juste donner des traces, des indices de ces extraterrestres étranges, et les joueurs les interprètent un peu comme ils veulent. Ça peut être un des mystères de la campagne. Ça, c'est tout à fait possible. Alors que des aliens personnages jouables, je trouve que ça limite quand même un petit peu ce qu'on peut jouer, quoi, parce que je crois que c'était Eugénie qui avait joué une fois un saumon mort, mais bon, la plupart des joueurs n'ont pas forcément envie de jouer quelque chose d'aussi extrême. Donc, si on joue avec d'autres, il faut quand même des aliens qui soient un minimum plus ou moins anthropomorphiques, quoi, pour qu'on puisse les jouer sur la durée. Par contre, ça va quand même être l'occasion d'explorer une culture différente de notre culture relativement classique, notamment occidentale. Ça permet également de jouer les rencontres culturelles, les difficultés, les tensions. Et pour ça, je pense que ce qui peut être intéressant pour en jouer, c'est de peut-être de se concentrer sur un facteur ou deux pour s'aider à mettre en avant la différence, justement. Le sensoriel, par exemple, un sens vraiment différent des êtres humains, ça peut être une piste. Ça frappe tout de suite tout le monde que un alien qui peut détecter les ondes électromagnétiques, tout de suite c'est différent d'un être humain. Alors que sinon on a